Bienvenue dans À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouen. Chaque semaine, vous trouverez ici toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Bonne écoute et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership.
Une des choses que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible est à la fois un livre historique, mais aussi un livre prophétique. Ça veut dire que c'est d'abord l'histoire d'un peuple qui est totalement différent de nous. Voyez-vous, la Bible n'a pas été écrite d'abord pour les Gabonais. Les textes que nous avons lus ne s'adressent pas d'abord à nous, ou à la maison du bâtisseur. Ce texte s'adresse à un peuple en particulier. À un moment, je reviendrai sur le contexte de l'histoire pour que vous compreniez bien qu'est-ce que Dieu, ou du moins qu'est-ce que ces mots avaient comme objectif. Quel est l'impact que Dieu voulait que cette déclaration ait, alors qu'il s'adresse par le prophète Jérémie à un auditoire. C'est Dieu qui parle. Au travers de son prophète, Jérémie, et Dieu dit, je connais. Vous savez, c'est majeur pour moi que vous compreniez que ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas, Dieu le connaît. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre votre vie seulement sur la base de ce que vous connaissez, parce que ce que vous connaissez est limité. Les Saintes Écritures, et c'est l'apôtre Paul, si je ne m'abuse, qui parle, et il dit, quand nous prophétisons, parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ah. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la connaissance et la parole prophétique. La parole prophétique, c'est parler de ce qui va être. La parole prophétique ne s'adresse pas au passé. La parole prophétique ne s'adresse même pas au présent. Quand Dieu parle, et Dieu parle toujours prophétiquement, quand Dieu parle sur la base de sa connaissance. C'est parce que Dieu connaît d'avance qu'il peut prédestiner. 1, 2, 3, lisons ensemble Romains 8, 28. Ce texte, cette portion d'écriture, on l'utilise pour dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'accident, les problèmes familiaux, la famille dans laquelle tu es né, les réalités gouvernementales, les réalités de ton pays, tout ça, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, rien de ce que le diable peut envoyer contre toi ne peut véritablement te détourner de ta destinée, de ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu comprends bien que Dieu utilise même Satan pour t'emmener à destination. Même le diable travaille pour toi. Quand Satan s'organise pour qu'il y ait à côté d'Anne Pénina et que Pénina accouche régulièrement à côté d'Anne, le fait que Pénina accouche régulièrement à côté d'Anne provoque les entrailles de Anne. Pénina ne fait qu'accoucher. À un moment, Anne se révolte. Et Anne dit à son mari Elkana, donne-moi un enfant ou je meurs. Elkana considère qu'il ne peut pas ouvrir ses entrailles. Et là, Anne se rend compte qu'elle s'est trompée d'interlocuteur. Elle pensait que c'était Elkana qui était capable d'emmener une femme à enfanter. Mais elle se rend compte que ce n'est pas Elkana qui détient les clés de ses entrailles. Et là, Anne quitte sa maison. My God, I give you praise. Et elle va dans la maison de Dieu. Elle va dans le temple. Et là, elle dit à Dieu, mon mari n'est pas capable d'ouvrir mon ventre. Mais toi, tu es celui qui ouvre les entrailles. Et Anne commence à parler à Dieu. Et ma Bible me dit qu'Élie le sacrificateur se trompe de diagnostic en regardant Anne. My God, I give you praise. Son mari n'a pas pu l'aider. L'homme de Dieu s'est trompé lorsqu'il l'a vu en train de pleurer et d'ouvrir la bouche sans qu'aucun son ne sorte. Mais Dieu qui connaît le cœur ne s'est pas trompé de diagnostic au sujet d'Anne. Et Dieu va utiliser à nouveau Élie. Et Élie va dire à Anne, va en paix, tu es exaucé. Écoutez-moi bien, je veux dire à quelqu'un ce matin que ton mari ne peut pas. Il y a des choses que ton mari ne peut pas faire. Ah, il y a des choses que ta femme ne peut pas faire. Il y a des choses que ton pasteur, ton évêque ne peut pas faire. Il y a des choses, il faut que tu sois dans la présence de Dieu pour qu'elle se débloque. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu pour qu'elle se décante. Je ne sais pas à qui je parle, mais je veux parler à quelqu'un en introduction. À un moment, il faut détourner tes regards de l'homme et il faut les fixer vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. J'ai besoin que tu parles à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, Dieu peut tout. Non, je n'aime pas comment tu parles à ton voisin. Cherche un autre voisin. Dis-lui, Dieu peut tout. On va prêcher ensemble. Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, Dieu peut tout. Ah, vos Bibles disent que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je veux dire à une femme ce matin, même si les docteurs disent tu ne peux pas, Dieu te dit je peux. Ah, même si la science dit je ne peux pas, Dieu te dit je peux. Même si le banquier te dit je ne peux pas, Dieu te dit je peux. Même si ta famille dit je ne peux pas, Dieu te dit. Ah, come on. Même si ta famille te dit je ne peux pas, Dieu te dit. Même si tes amis te disent on ne peut pas, Dieu te dit. Là où ton argent s'arrête, la provision de Dieu commence. Écoutez-moi bien, ça veut dire que Dieu n'appelle pas ce qu'il ne connaît pas d'avance. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ça veut dire que la prédestination, le fait d'avoir une destination connue d'avance, vient parce que Dieu te connaît. Le fait que Dieu connaisse qui tu es, la Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose dès son commencement. Le fait que Dieu connaisse qui tu es, il te donne une destination. À partir de ce qu'il a connu et du fait qu'il t'est prédestiné, la Bible dit s'il te prédestine, il t'appelle. S'il t'appelle, il te justifie. Et s'il te justifie, il te glorifie. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire que Dieu ne mise jamais sur le mauvais cheval. Dieu ne mise jamais sur la mauvaise personne. Parce que Dieu connaît la fin dès le commencement. Ça veut dire que si Dieu t'appelle, c'est qu'il a déjà vu qu'il va te glorifier. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il t'a déjà justifié. Ça veut dire que dans l'appel de Dieu, docteur, il y a la justification. Dans l'appel de Dieu, il y a la glorification. Mais Dieu ne peut pas t'appeler. Oh, il y en a, vous êtes surpris. Quand vous êtes surpris, vous pensez que Dieu est surpris. Quand tu te trompes, quand tu fais une erreur, quand tu tombes, tu te dis mince, Dieu ne veut plus de moi. Non, quand Dieu t'a appelé, il avait déjà vu que tu allais tomber. Il avait déjà vu que tu allais te tromper. Il avait déjà vu que tu allais avoir un enfant en mariage. Il avait déjà vu que tu serais mère célibataire. Il avait déjà vu que tu allais perdre tes parents. Il avait déjà vu tout ce qui arrive, mais il t'a quand même appelé. Les gens peuvent être choqués quand ils découvrent quelque chose sur toi. Mais avant de t'appeler, Dieu avait déjà toute la doc sur toi. Et il t'a quand même appelé. C'est pour ça que vos Bibles disent que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Dieu ne change pas d'avis. Regarde quelqu'un à côté de toi, dit Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Quand il a décidé de te bénir, il va te bénir. Dieu ne change pas d'avis. Pourquoi je vous parle de ce texte? Parce que j'essaye de vous dire que quand Dieu dit je connais, c'est parce qu'il connaît qu'il peut prophétiser. Qu'il peut parler en avance de ce qui va être. Si tout de suite vous avez l'information que demain il y aura pénurie d'essence, l'information vous donne la capacité de prophétiser. Donc si tu veux prophétiser, il te faut la connaissance. Il te faut connaître d'avance ce que d'autres ignorent. Quand tu vas dire demain voici ce qui va arriver, tu peux le dire parce que tu connais. Et Dieu ne se trompe pas. C'est pour ça que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce qu'il les a déjà vues être. Et donc ce qu'il connaît, ce qu'il a vu, c'est ce qu'il déclare. Car je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. Donc Dieu connaît. C'est important donc que tu comprennes que Dieu connaît. Le mot connaissance ou le mot connaître dans ce texte, c'est le mot yada. Qui parle de connaissance et de connaissance intime. Ce n'est pas une connaissance superficielle. Dieu a une connaissance profonde des projets qu'il a formés sur toi. Mon problème avec ce texte, et Dieu va m'aider, mon problème avec ce texte, c'est que Dieu connaît. Mais le fait que Dieu connaisse les projets qu'il a formés sur toi peut ne pas changer ta vie. Tu peux rester pauvre. tu peux rester misérable. Tu peux rester malheureux, malheureuse, malgré le fait que Dieu connaisse. Parce que ce que Dieu connaît ne change pas ta vie. C'est ce que toi tu connais. Dieu connaît les projets que j'ai formés sur vous. C'est très bien. Mais si cette connaissance, tu n'y as pas accès, tu restes prisonnier pensant que Dieu n'a pas formé de projet sur toi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ça veut dire que la connaissance de Dieu ne change pas la vie des hommes. La connaissance de Dieu permet que Dieu soit Dieu. Aussi vrai que les cieux sont éloignés de la terre, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est ce que Ésaïe dit prophétiquement. En d'autres termes, l'une des choses... je ne sais pas si je dois dire ça dans cette maison. L'une des choses qui fait que Dieu soit Dieu, c'est ce qu'il connaît. Je vais dire ça différemment. Dieu est Dieu et nous ne sommes pas Dieu. Parce que Dieu connaît des choses que nous ignorons. La connaissance te fait passer de l'état humain à l'état divin. La connaissance change ton statut. Je dois vous dire ça. La connaissance vous emmène à changer de regard sur vous-même et donc vous emmène même à changer d'attitude. Je connais le docteur Luc. Il y a des endroits où on peut vouloir m'arrêter. Je dis, je connais le docteur Luc Ondias. Allez lui demander. À ce moment-là, il va dire, laissez-le passer, c'est bon. Il est avec moi. Vous n'entendez pas? Dans notre pays, vous savez très bien que dans notre pays, que les choses fonctionnent en fonction de qui vous connaissez. Connaissez et qui vous connaît, qui vous connaissez et qui vous connaît est capable de changer radicalement le cours de votre vie. Quand on vous arrête pour un contrôle, tu paniques pas. Quand tu connais et qu'on te connaît, on n'arrête pas tout le monde de la même manière. Est-ce que vous m'entendez même? Et donc, j'essaye de vous dire que l'une des choses qui justifie que nous ne vivions pas la vie que Dieu connaît, à laquelle Dieu nous a appelés, c'est parce que nous ignorons des choses que Dieu connaît. Mon peuple périt pas parce qu'il lui manque l'argent. On a des gens qui sont riches mais qui ne connaissent pas. Ils ont l'argent. Écoutez-moi, l'argent sans connaissance conduit à la pauvreté. Parce que tu peux avoir de l'argent qui t'a été donné, légué. Mais si tu ne sais pas comment faire pour le garder et le multiplier, tu vas redevenir pauvre. Les gens qui gagnent au loto ont l'argent, mais ils n'ont pas la connaissance des riches. La richesse est d'abord un état d'esprit, une mentalité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, pas de ton esprit, c'est pas la prière en langue. De ton âme, l'âme est le siège de la volonté, des émotions et de l'intelligence. C'est ça, Dieu veut que tu prospères là. Si tu grandis dans ton âme, ta prospérité sera évidente. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder, de scruter. Ce qui fait qu'un homme devienne un roi, qu'un homme ait le règne, c'est ce qu'il sonde, c'est ce qu'il scrute. Dieu cache parce qu'il y a des rois qui doivent sonder. Le problème avec ça, c'est que les gens, le commun des mortels n'aime pas réfléchir. La plupart des gens veulent qu'on leur donne sur un plateau d'argent, sans effort, sans payer un prix. Ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre, c'est ce que la personne connaît, que toi tu ignores. Car je connais, dit Dieu. Mais si ça reste au niveau de Dieu, tu ne seras pas libéré. D'ailleurs, vos Bibles disent que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui libère. C'est la vérité qu'on connaît qui nous libère. Je suis obligé de vous dire ça. Je sais que je vais doucement, mais je suis obligé de vous dire ça. La vérité ne libère pas. c'est la connaissance de la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu as connue te libère. Levez-vous, madame. Imaginez que je dise à cette dame, levez-vous. Que le fruit de ses entrailles est béni.
Amen.
Fruit de vos entrailles est béni. Vous porterez dans vos entrailles des princes et des rois, des reines. Ce qui sortira de votre ventre, ce qui sort de votre ventre est béni. Non seulement ça, mais Dieu vous bénira dans l'immobilier. Ce que je vois immobilier écrit sur votre front, Dieu vous bénira dans l'immobilier. Vous réussirez là où d'autres ont échoué. Si je lui dis ça et qu'elle le reçoit, ça l'empuissante, empowers, ça l'équipe pour pouvoir vivre une vie telle que j'ai annoncée. Mais il faut qu'elle reçoive la vérité que je libère. La vérité, c'est un exemple. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que malgré ce que j'ai dit devant vous, vous avez acclamé, ça ne change pas sa vie si elle ne le reçoit pas et qu'elle ne le met pas en action. En application, ça n'a pas de sens. Le problème qu'on a parfois avec l'église, c'est qu'on a prêché tellement de messages. On a dit tellement de choses. Vos vies ne changent pas. Pourquoi? Pas parce que ce qu'on dit n'est pas la vérité. Mais c'est parce que vous refusez de connaître la vérité qu'on annonce. C'est pas possible que vous soyez dans cette maison et que vous soyez pauvre. Pas avec le discours qui est tenu. Pas avec les choses qui sont dites. Pas avec l'enseignement. C'est pas possible. Parce que pour vous faire prospérer, Dieu ne vous donne pas de l'argent. Dieu vous donne de la connaissance. Et si avec la connaissance qui est distillée dans cette maison depuis des années, vous n'arrivez pas à produire, alors que cette connaissance marche chez lui, et que vous voyez bien qu'il construit, vous voyez bien qu'il grandit, vous voyez bien qu'il a accès à des zones où nous n'avons pas accès. Ce qui lui donne accès, ce n'est pas son nom, c'est sa connaissance. Et cette connaissance vous est rendue disponible. Mais malgré ça, vous croyez quand même que vous êtes maudit. Les choses de mon corps. On va encore faire comment? La vérité, c'est que c'est la connaissance qui te libère. La connaissance de la vérité te libère. Vos Bibles disent que Jésus allait chez Jaïrus pour guérir sa fille. Sur le chemin, une femme à la perte de sang, qui n'était pas dans l'agenda de Jésus, a pu interrompre. Oh, vous ne m'entendez pas. C'est-à-dire que Jésus n'allait pas chez elle. Jésus allait chez Jaïrus. Mais elle a pris, elle a intercepté ce que Jésus allait donner chez Jaïrus, au point où la fille de Jaïrus a eu le temps de mourir. C'est pas ton problème si Dieu ne bénit pas l'autre. Chacun sa foi, chacun est responsable de ce qu'il reçoit à l'église. Mais si tu as entendu une parole et que cette parole provoque quelque chose en toi, au lieu de rester assis comme ça pour dire mon, on n'a pas cité mon nom, on n'a pas de nom, non, tu saisis la parole au vol, tu fais une offrande, tu scelles, tu te connectes à la parole. Trop de gens, vous êtes dans l'église et puis vous attendez que quelqu'un d'autre fasse votre travail. Bien sûr. Ne pas connaître donne vie à l'esclavage. Nous sommes esclaves de ce que nous ignorons. Si tout de suite Dieu, si tout de suite on vous informe que vous êtes héritier ou héritière d'un roi, d'un prince qui est mort, on vous dit monsieur, madame, mademoiselle, voici les papiers qui prouvent que vous êtes de la lignée, la descendance. Vous êtes le seul héritier, la seule héritière. Il a laissé des millions d'euros. Vous n'avez pas encore vu l'argent. On vous dit c'est dans un compte. Mais rien que l'annonce de ça, la vérification des papiers, tu changes de démarche. Oh, tu commences déjà à faire des projets. Tu vas même dire à ta femme, bébé, on déménage. Authentique, tu n'as pas encore l'argent dans les mains. Mais rien qu'avoir l'information, ah, change ton attitude, t'oblige à faire des projets, tu commences à chercher une voiture. Ça veut dire que ta vie change sur une information. Vous ne me croyez pas? Quand vous allez chez le docteur me dit par exemple, là moi je suis allé chez le docteur et médicalement il me fait un diagnostic. Pour certaines personnes, le docteur va te dire, monsieur, madame, il y a ceci, il y a telle ou telle maladie, il y a le cancer, il y a le diabète, il y a ceci, il y a cela. Tu n'as pas vu la maladie. Tu ne vois pas la maladie, mais le discours du docteur. Tu es rentré avec le sourire. Dès qu'il te dit, monsieur, vous êtes malade. Madame, vous êtes malade. Ta question, c'est quel type de maladie d'abord? Est-ce que c'est bénin ou est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je peux mourir? Ah, donc, monsieur, il vous reste 6 mois à vivre. Je te garantis, tu n'as pas besoin de voir la maladie. Ta vie s'arrête. Tu paniques, tu pleures. J'appelle ta famille, tu dis, je vais mourir dans 6 mois. Tu n'as pas vu la maladie. Tu as juste entendu une information. Pourquoi est-ce que vous entendez des informations, mais vous avez davantage de foi dans les mauvaises informations? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste qu'optimiste? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus facile de croire en un mauvais discours que de croire en une bonne nouvelle? C'est parce que très souvent, depuis le berceau, on a été formaté à recevoir davantage les mauvaises nouvelles. Tu es bête. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas belle. Tu te prends pour qui? C'est avec ça que nos fidèles viennent à l'église. Donc quand toi tu parles du haut de l'estrade, homme de Dieu, tu ne sais pas, mais tu rencontres des barrières, des années de mauvaises paroles, des années de mauvaises informations. Pendant que tu lui dis, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi, la voix de son ex lui parle. Souviens-toi que je t'ai plaqué. Quand tu dis, tu réussiras, tu as la voix de son échec qui lui dit, mais tu as échoué. Vous êtes trop plein. L'un des fardeaux que j'ai, c'est que si on doit vous remplir, on doit d'abord vous vider. Vous devez désapprendre avant d'apprendre.
C'était À la découverte de soi, le podcast d'enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. Nous vous encourageons à utiliser chacune des ressources que vous avez trouvées dans cet épisode. Rendez-vous sur michelambourouet.com pour découvrir d'autres prédications et des enseignements de sagesse. À la découverte de soi, un podcast MA Organisation.